Pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
On écrit pour que quelque chose subsiste.
Europe 1, 14h-15h, la voix est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Nicolas Carreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre. Cette semaine, je reçois Adélaïde de Clermont-Tonnerre. 5 ans que son nouveau roman était attendu, elle est là. Le livre culte de cette semaine, ce sera George Sand, La Mare au Diable. Nous irons visiter une bibliothèque, celle du camarade Bertrand Chamerois. Aujourd'hui, on va parler fleurs et orangers. Et puis, nous irons nous balader dans une librairie à Saint-Mandé cette semaine. Allez, La Voix est libre, c'est parti, premier chapitre. Elle est l'une des voix bien installées maintenant de la littérature française, littérature romanesque française, c'est important. Toujours un souffle, un foisonnement de personnages et de situations, lui doit Fourrure déjà en 2010 et Le Dernier des Nôtres en 2016, gros succès, grand prix du roman de l'Académie française. Elle a pris son temps, mais elle revient avec Les Jours Heureux chez Grasset. Bonjour Adélaïde de Clermont-Tonnerre.
Bonjour Nicolas.
C'est vrai ce que je disais, vous prenez le temps, hein ? C'est exprès ou c'est malgré vous, il vous faut 5 ans pour un roman et c'est tout, c'est comme ça et les lecteurs, c'est pas grave, ils attendent ?
En fait, j'aimerais beaucoup leur donner plus de romans plus souvent, mais je sais pas que je prends le temps, c'est que je le vole en fait. Chaque heure, j'ai besoin d'aller la chercher parce que je suis maman, j'ai un autre métier. Peut-être qu'un jour, je n'aurai pas cet autre métier, mais pour l'instant, j'en ai un autre. Donc, c'est vraiment quelques heures le matin volées. Et comme je fais des romans un peu joufflus, eh bien, il me faut du temps, effectivement.
Ah bah justement, je comptais pas aller jusque-là tout de suite, mais enfin, puisque vous en parlez, moi, j'adore les emplois du temps d'écrivain. C'est à quelle heure exactement ? Est-ce que vous avez une discipline particulière ? Est-ce qu'il faut que ce soit tous les jours, malgré tout ?
Oui, c'est vraiment tous les jours, malgré tout. Quand je ne le fais pas, je suis d'humeur assez grognon. Je ne deviens pas très fréquentable. Parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me rend très heureuse. C'est comme un petit moment d'euphorie chaque matin. C'est très tôt. Pour celui-là, c'était particulièrement tôt parce que j'avais justement beaucoup de travail par ailleurs. Donc, je me suis levée, je l'ai fini en me levant pendant des semaines à 3h30 du matin.
Ah oui, quand même.
Oui, oui. Là, il faut que je fasse une petite sieste à un moment. Oui.
Ah oui, vous n'avez pas ce rapport de certains écrivains à l'écriture qui est douloureuse ? Qui leur fait mal en écrivant, c'est très dur et tout ça.
Non. Alors ça, je respecte beaucoup, je les plains surtout, parce que moi j'ai la chance que ce soit très très joyeux. Au contraire, c'est un bonheur fou de me retrouver dans cette liberté, en fait, parce que rien ne vous contraint quand vous écrivez. Et puis j'aime bien mes personnages, ce sont des personnages flamboyants et insupportables et que j'aime beaucoup en même temps. Et du coup, oui, ils me tiennent compagnie et j'aime les retrouver.
On va y venir. D'ailleurs, vous remerciez votre éditeur à la fin de vous avoir laissé le temps sans froncer les sourcils. Ça, on ne le soupçonne pas forcément en tant que lecteur, mais c'est très important d'avoir un éditeur avec qui ça se passe très bien. Les duos éditeur-écrivain, c'est très important.
Moi, j'ai une chance folle, honnêtement, d'être édité chez Grasset, de travailler avec quelqu'un qui s'appelle Christophe Bataille, qui est vraiment d'abord un très grand écrivain, donc qui a une empathie, je pense, pour les mots, pour l'écriture que peu de gens ont, et de travailler avec Olivier Nora, qui dirige les éditions, qui a justement cette générosité-là. C'est-à-dire que jamais il va venir vous taper sur les doigts en disant « Bon, ce texte, on l'attend, quand arrive-t-il ? » Il pense que la créativité a son rythme et il la respecte, et ça, je les remercie en direct.
Même si parfois c'est pas mal de pousser un peu un écrivain en lui donnant une échéance parce que sinon il y en a certains qui rendraient jamais, ils seraient jamais satisfaits, ça peut durer toute la vie.
Alors je pense que c'est là où ils sont très forts, c'est qu'ils doivent s'adapter à chaque profil. Moi j'ai tellement tendance à m'auto-discipliner et je le fais avec tellement d'envie que j'ai moins besoin d'être fouetté peut-être, mais je ne dis pas que ça n'arrivera pas un jour.
Bon, on s'est écarté du roman, on y vient, c'est l'histoire d'Oscar, c'est un fils d'eux. Fils d'Edouard Vian et Laure Brankovic, un couple mythique du cinéma genre Richard Burton, Liz Taylor, mais français. Et ils sont potes avec Delon, Belmondo. Et pour Oscar, ça c'est la routine en fait. C'est aussi tout à fait normal qu'en sortant de l'école, au lieu de prendre le goûter devant des dessins animés, ses parents décident sur un coup de tête de partir en Italie. Alors hop, on prend la voiture et puis on part pour Portofino et c'est super. Et ils sèchent l'école et c'est pas grave. C'est un couple fantasque et attachant.
Oui, ils sont fantasques, ils sont attachants, ils peuvent être fatigants aussi parce qu'ils se disputent beaucoup dans ce couple, effectivement, à la Burton-Taylor. Ils s'aiment, ils ne s'aiment plus, ils se séparent.
Ils divorcent, voilà. Mais ils se remarient 3 fois, je crois.
3 fois, exactement. Donc le pauvre Oscar, il y a les avantages, effectivement, des parents célèbres, mais il y a les désavantages des parents célèbres, à savoir une image un peu écrasante, et puis des parents qui, au lieu de le coller devant des dessins animés, vont le mettre devant des films d'art et d'essai alors qu'il n'a que 4 ans. Donc
il surtout essaie... quand ils se disputent d'ailleurs.
Oui, c'est ça. Il se trouve que c'est très pratique comme babysitter. Lui n'y comprend rien, mais bon, au moins ça évite qu'il soit témoin des disputes. Et c'est vrai qu'il essaye de se créer son espace à lui, d'écrire sa propre histoire, mais que souvent, ses parents qui l'adorent, parce qu'ils sont très fusionnels tous les trois, ont tendance à venir perturber son quotidien.
Alors justement, Oscar, il voulait être écrivain. À 16 ans, il a publié un premier recueil de nouvelles. Et alors là, c'est la malédiction du fils d'eux, c'est-à-dire que ça se passe très très mal. Les critiques ne voient que sa généalogie. D'ailleurs, à cause de ses parents qui n'ont pas voulu qu'il prenne un pseudonyme. Ça vous intéressait aussi cette histoire? On en parle en ce moment pour d'autres cas et ça revient souvent, cette histoire de fils d'eux, fille d'eux. Ça peut être une malédiction ou un truc, une bénédiction, ou les deux en même temps d'ailleurs.
Oui, c'est vrai, c'est un peu les deux. Ça peut apporter quand même des passe-droits, c'est vrai, des avantages, mais ça apporte aussi beaucoup de préjugés. C'est-à-dire qu'au fond, vous êtes très rarement jugé sur vos propres capacités, sur vos propres mérites, et vous êtes systématiquement comparé. Et récemment, je lisais d'ailleurs une interview de Victor Belmondo, le petit-fils de Belmondo, qui a eu cette jolie formule. Il a dit « Avoir un nom, finalement, ça vous ouvre autant de portes que cela vous enferme », et je trouve que c'était assez juste.
Mais alors, vous, c'est complètement différent, mais vous êtes une Clermont-Tonnerre, vous n'avez pas de pseudonyme, et Clermont-Tonnerre, c'est une vieille, vieille famille de l'aristocratie française. Ça pèse aussi de la même façon ? C'est-à-dire qu'on est bercé par les mythologies de la famille quand on est enfant, j'imagine.
Oui, c'est exactement la même histoire, en fait. C'est-à-dire que oui, il y a des personnages qui m'ont précédé, qui ont un faste, du courage, des histoires extraordinaires. Il y a eu des héros de la guerre, il y a eu Stanislas de Clermont-Tonnerre qui est le premier à donner la citoyenneté aux Juifs de France, à voter à l'abolition des privilèges. Et bon, il a été défenestré après, mais c'est pas grave. Enfin, il y a eu des grands personnages comme ça. En même temps, quand on est une fille dans ce monde-là, dans ce monde aristocratique, c'est pas quelque chose qui vous pèse tellement, puisque les filles ne sont pas censées, au fond, avoir un parcours individuel. Elles sont plutôt censées aller suivre la tradition, avoir des enfants. Donc, au fond, pour moi, ça n'a pas été très pesant. En revanche, les gens vous jugent beaucoup autour du nom, sans finalement chercher toujours à savoir qui vous êtes.
Justement, alors, c'est pas central dans le roman du tout, mais il y a quand même la question du pseudonyme et du nom. Et par exemple, le père d'Oscar, c'est Edouard Vian, V-I-A-N, comme Boris Vian, alors qu'il n'a aucun lien avec lui. Oui. C'était un hommage aussi à Boris Vian ?
Oui, j'ai une passion pour la fantaisie, la liberté d'un Boris Vian. Donc c'est vrai que quand je crée un personnage, je vais chercher un peu des qualités que j'aime un peu partout, dans le nom, dans le physique, dans le tempérament. Mais pour revenir à ce que vous disiez, c'est vrai qu'Oscar, mon héros, du coup, après cet échec littéraire retentissant, la première chose qu'il fait, c'est de changer de nom. Il décide d'écrire sous le nom de sa grand-mère, Laventi, parce qu'il essaye désespérément de faire ses preuves, au fond. Et c'est très important pour un être humain de faire ses preuves.
Et il décide de devenir scénariste de série, alors que ses parents sont des stars du cinéma, déjà, c'est pas évident. Mais ça marche fort, et il y a un très bel hommage, justement, à l'art de la série, dans le roman.
Moi, c'est vrai que j'ai une passion pour les séries. Je trouve ça, quand on aime les histoires, quand on aime écrire, quand on est fortiori romancier, ce format-là de la série permet de déployer une telle intimité avec les personnages, d'aller tellement fouiller leur caractère, leur vie, de passer tellement de temps avec eux qu'au fond, regarder certains personnages de série, quand ça s'arrête, on est en deuil. Exactement ce qu'on essaye de faire, au fond, nous, les romanciers. Le plus beau compliment qu'on peut faire, je pense, sur un livre, c'est de dire « quand j'ai fermé, j'aurais eu envie que ça continue, les personnages vont me manquer ». Et moi, ce sentiment, je l'ai eu plein de fois pour des romans et j'adorerais le reproduire.
C'est le feuilleton du 19e siècle. Et d'ailleurs, la mère d'Oscar finit par reconnaître que oui, effectivement, les séries de nos jours sont vraiment des chefs-d'œuvre. Dites donc, on vient de passer toute la première partie de l'interview sans rentrer dans le cœur du sujet du roman. Mais on va se rattraper dans la deuxième partie. Restez avec nous.
D'accord, merci.
14h-15h sur Europe 1. La voix est libre. Nicolas Carreau.
La Voix est libre continue toujours avec Adélaïde de Clermont-Tonnerre pour son nouveau roman, 5 ans après le dernier, Les Jours Heureux. Chez Grasset, c'est votre nouveau roman. On a rencontré tout à l'heure Oscar, qui est le héros, fils d'un couple de légendes du cinéma français. Un couple qui n'a d'ailleurs pas inspiré particulièrement de personnages. Enfin, en tout cas, j'ai pas réussi à les trouver, peu importe, à la limite. Sauf qu'on aurait dû peut-être commencer par là, parce que c'est comme ça que commence le roman. Oscar apprend dès les premières lignes que sa maman est gravement malade et qu'elle va mourir, qu'elle pourrait profiter d'un traitement expérimental, mais qu'elle n'est pas du genre, quand elle a dit non à quelqu'un, quelque chose à revenir sur, sur cette parole. Et en l'occurrence, elle a dit non, elle n'en veut pas. Et lui décide, parce que donc ses parents, on l'a dit tout à l'heure, se séparent, se remettent ensemble, etc. Et décide que, eh bien, il va essayer de remettre ensemble ses parents pour la dernière fois. Mais pourquoi ?
En fait, je pense que c'est un peu le rêve de tous les enfants, de parents séparés, divorcés, ce fantasme qu'un jour ils se retrouveront. Et Oscar a exactement ce fantasme avec presque une forme de superstition. Il se dit que ça sauverait sa mère, que c'est la seule manière finalement soit de la ramener à la vie, soit de lui permettre d'avoir une mort douce. Parce que je pose aussi cette question, au fond, jusqu'où contrôle-t-on sa vie, jusqu'où écrit-on sa vie et a-t-on le droit d'écrire sa fin aussi ? Le seul problème, c'est qu'il a quelques obstacles en chemin pour faire revenir son père dans les bras de sa mère, à commencer par une jeune influenceuse franco-russe avec
Natalia.
Natalia, je m'amuse un peu avec elle. Au départ, tout le monde la prend pour une superbe idiote.
Son père dit « Tu n'imagines pas combien la simplicité me repose ». Avec Natalia, on la prend pour une ingénue, en fait, pas du tout.
Oui, on la prend parce que c'est vrai qu'elle fait des tutos de maquillage, qu'elle est vissée à son portable, qu'elle passe son temps à s'habiller et à se déshabiller, d'ailleurs. Et du coup, on la prend, voilà, avec tous les préjugés sur le féminin et les influenceuses. Mais elle va tirer son épingle du jeu, et même avec tellement d'habileté qu'Oscar lui-même pourrait s'y laisser prendre.
Et pas tout seul, d'ailleurs. Oui. Il est scénariste, Oscar, mais ça, il faut lire le livre pour les détails croustillants. Il est scénariste et... ce qu'il veut, c'est réparer la réalité comme il répare la fiction. C'est ce qu'il dit à un moment dans le roman. Il veut être en fait scénariste du réel, mais c'est-à-dire Dieu finalement.
Oui, je pense que, et d'ailleurs c'est le rêve de toute personne qui écrit d'une certaine manière.
C'est l'écrivain démiurge, je crois.
L'écrivain démiurge et l'écrivain réparateur. Il y a des très belles citations d'ailleurs sur le fait qu'on écrit pour ceux qui nous ont quittés, pour garder le lien avec ceux qui nous ont quittés, qu'on écrit aussi parce qu'on a forcément, en tout cas quand on fait de la fiction, une forme de difficulté avec le réel, avec ses contraintes, avec ses injustices, avec ses insuffisances, et que tout d'un coup dans la fiction se déploie et une liberté et un plaisir qu'on ne trouve quasiment nulle part ailleurs, qu'on soit lecteur ou qu'on soit écrivain.
Et justement, vous, dans la vie, parfois vous vous dites « Tiens, j'aurais pas écrit cet événement comme ça ».
Ah oui, moi j'adorerais réécrire. Il y a plein de choses que j'aimerais réécrire. Plein. Quand j'entends des discours, quand j'entends des dénouements aussi qui ne me plaisent pas. Bien sûr, on aimerait réécrire des histoires d'amour qu'on a un peu ratées, qu'on aimerait réécrire des relations qui ont été insuffisantes. Et puis des retournements, parce que la fiction, c'est la vie en plus intense, en plus fou, et quelquefois en plus vrai.
Et à un moment, pendant le roman, pendant la lecture du roman, à ce moment justement où il décide de réécrire la réalité, je me suis dit, tiens, je ne m'y attendais pas, ça va être un roman fantastique ou science-fiction, un peu, il y a une nouvelle de Stephen King comme ça, où un écrivain écrit vraiment la réalité. Mais pas du tout, hein, évidemment. Mais ça vous a effleuré, ça, l'idée qu'en fait, il puisse réellement transformer en fonction de ce qu'il écrit la réalité ?
Moi, c'est un texte, en tout cas, que j'aimerais écrire. J'ai une passion, par exemple, pour le réalisme magique des auteurs sud-américains, d'un Gabriel Garcia Marquez, de toute cette veine-là, très foisonnante et très... Le magique, le fantastique m'attire beaucoup, oui. Ça m'amuserait d'écrire des histoires hors du réel complètement.
Alors, on a l'air de parler d'un roman assez linéaire et monothématique comme ça, alors que pas du tout, parce que... Donc, on ne peut pas résumer le roman, hein, mais il va rencontrer une Aurélie qui a rencontré pas mal de difficultés, qui écrit sur un certain W, qui est un prédateur du cinéma américain. Bon, on l'a reconnu évidemment, c'est Weinstein. Vous partez sur MeToo, on voyage, on va à Cannes, à Courchevel, au Mexique, je ne sais plus. C'est ça un roman, il faut tout embrasser.
Oui, moi j'aime vraiment l'idée. Je me souviens qu'un éditeur, au tout début de ma carrière, que j'interviewais, j'avais même pas encore de prétention à écrire, un éditeur m'avait dit il faut faire des choix, il faut prendre une seule trame, etc. Et moi je me suis dit, mais non, c'est l'inverse. Moi j'aime les romans mondes. J'ai envie de tout mettre dans un roman. J'aime quand c'est foisonnant, débordant, comme la vie. Je trouve par exemple que l'idée du genre est absurde. Alors souvent on me dit, mais est-ce que vous avez écrit un roman d'amour ?
Du genre littéraire.
Du genre littéraire, oui. Est-ce que vous avez écrit un roman d'amour ? Ou est-ce que c'est un policier ? Ou est-ce que c'est une tragédie ? Et je dis, mais dans la vie, tout se succède. On aime, on est déçu, on est heureux. La seconde d'après, on a une épouvantable tragédie. Et moi, j'essaye de faire ça. J'essaye, dans ce petit objet de papier, de concentrer tous ces sentiments-là.
D'accord, mais ce n'est pas sympa pour les journalistes littéraires. Ce matin, j'ai fait une chronique chez Pierre de Villeneuve. J'ai essayé de parler de votre livre. Et en fait, en 2 minutes, c'est quasiment impossible, quoi.
Mais... c'est vrai que ce n'est pas sympa pour vous. Et que moi-même, j'ai mis du temps à le synthétiser. Parce que j'étais tellement dedans que c'est pas évident à résumer.
Et vous faites partie de ces écrivains français qui reprennent la veine hyper romanesque 19e, alors qu'on a eu un moment très bien d'ailleurs, laboratoire littéraire un peu, où l'intrigue était un peu mise de côté au profit du style.
Oui.
Là, on est en train de réconcilier un peu les deux. C'est comme ça que vous voyez aussi vos romans ?
Totalement, ça me fait très plaisir que vous l'analysiez comme ça, parce que pour moi, c'est tout à fait ça. Pourquoi, encore une fois, catégoriser ? Comme je n'aime pas les genres littéraires, je trouve que le style n'a pas besoin d'être désolidarisé de l'histoire, que l'histoire n'a pas besoin d'être désolidarisée des personnages comme dans une certaine veine du nouveau roman. Et au fond, on dit souvent qu'on veut écrire des romans à l'américaine, mais comme vous le dites très justement, ces romans à l'américaine, ils se réclament du roman français du 19e. Donc notre grande tradition littéraire française, elle est dans ce romanesque et dans cette fiction. Et il y a des choses formidables dans l'autofiction, il y a des choses formidables dans le nouveau roman. Mais moi, c'est vraiment là que va mon cœur.
On ne leur laissera pas le romanesque.
Exactement.
Frédéric Becbédé a publié une critique très positive de votre roman.
C'est dans le et très drôle,
magazine,
d'ailleurs.
Je crois, très drôle. Et alors, j'aime bien sa formule qui peut paraître assez vache si on la décontextualise, mais en fait, pas du tout, du tout. Il dit que c'est un roman de plage mélancolique. Donc, une sorte d'équilibre entre légèreté et un roman où on a envie d'y aller avec plaisir et jubilation. Et en même temps, une forme de profondeur, quoi, avec la mélancolie et la tristesse que ça implique.
Mais c'est vrai que ça m'a fait très plaisir, parce que d'abord, elle est formidablement écrite, cette chronique, comme il sait le faire, et qu'il la lit ce qui semble contraire. Et c'est exactement ce que j'essaye de faire. C'est-à-dire que moi, j'aime vraiment et je crois au plaisir de lecture. Je ne trouve pas du tout que parce qu'on a du plaisir à lire, ça veut dire que ce n'est pas de bonne facture littéraire et qu'on peut mêler la mélancolie, la tristesse, la gravité avec la légèreté, les voyages et une forme de sensualité aussi.
Bon, il se trouve que vous n'avez toujours que des critiques positives, mais est-ce que ça vous stresse quand vous publiez votre roman, quand vous voyez les papiers dans les journaux arriver, etc., les critiques en... Est-ce que une critique négative importe et est-ce qu'elle comptera plus que les 48 positives ?
Alors, elle comptera pas plus, mais c'est vrai que je m'y arrête parce que j'essaie de voir ce que je peux en tirer. Vraiment, avec un côté presque un peu scolaire, peut-être, j'essaie de voir où ça aurait pu être amélioré. Et d'ailleurs, il y a des blogs aussi qui sont extraordinaires, qui font des papiers très, très, très fouillés. Ça m'intéresse. Après, oui, bien sûr que je suis attentive à la manière dont c'est reçu, parce que j'ai pas envie de décevoir, tout simplement. Quand vous avez un engouement, comme j'ai eu la chance de l'avoir autour du dernier des nôtres, j'avais vraiment pas envie que les gens se disent « Oh, bah, cette fois-ci, elle s'est pas foulée, ça me plaît pas. » Et du coup, j'ai envie de leur donner tout ce que je peux à chaque fois. Donc ça me fait plaisir quand c'est bien accueilli, bien sûr.
Là, vous vous êtes bien foulé, en tout cas, il n'y a pas de doute. Nos jours heureux chez Grasset, et dans un instant, c'est le livre culte. Je l'ai choisi sans vous, mais je me suis dit après coup que ça vous allait bien. On va écouter la première page de La Mare au Diable de Georges Sand. A tout de suite.
14h-15h sur Europe 1. La Voix est libre.
La Voix est libre, toujours avec Adélaïde de Clermont-Tonnerre. Les jours heureux, son nouveau roman est publié chez Grasset et il est l'heure du roman culte. Cette semaine, j'ai choisi Georges Sand, sans doute son livre le plus célèbre, La Mare au Diable, publié en 1846. Une histoire d'amour dans le Berry. Georges Sand l'a écrit parce qu'elle voulait battre en brèche les clichés, l'image d'Épinal de la vie des paysans au 19e siècle. C'est donc l'histoire de Germain, un veuf de 28 ans qui s'en va rencontrer une veuve d'un autre village. En chemin, il tombe amoureux d'une bergère. Ça a l'air d'être une histoire d'amour de plus, mais c'est bien plus large. C'est un portrait d'une société et d'une époque. On écoute la première page, lue évidemment par le comédien Philippe Dussault.
La Mare au Diable. À mon ami Frédéric Chopin. À la sueur de ton visage, tu gagneras ta pauvre vie. Après long travail et usage, voici la mort qui te convie. Ce quatrain vieux français placé au-dessous d'une composition d'Holbein est d'une tristesse profonde dans sa naïveté. La gravure représente un laboureur conduisant sa charrue au milieu d'un champ. Une vaste campagne s'étend au loin, on y voit de pauvres cabanes. Le soleil se couche derrière la colline. C'est la fin d'une rude journée de travail. Le paysan est vieux, trapu, couvert de haillons. L'attelage de 4 chevaux qu'il pousse en avant est maigre, exténué. Le soc s'enfonce dans un sol raboteux et rebelle. Un seul être est allègre et ingambe dans cette scène de sueur et usage. C'est un personnage fantastique, un squelette armé d'un fouet qui court dans le sillon à côté des chevaux effrayés et les frappe, servant ainsi de valet de charrue au vieux laboureur. C'est la mort. Le spectre d'Holbein a introduit allégoriquement dans la succession de sujets philosophiques et religieux, à la fois lugubre et bouffon, intitulé « Les simulacres de la mort ». Dans cette collection, ou plutôt dans cette vaste composition où la mort, jouant son rôle à toutes les pages, est le lien et la pensée dominante. Holbein a fait comparaître les souverains, les pontifes, les amants, les joueurs, les ivrognes, les nonnes, les courtisanes, les brigands, les pauvres, les guerriers, les moines, les juifs, les voyageurs, tout le monde de son temps et du nôtre. Et partout, le spectre de la mort raille, menace et triomphe. Un seul tableau, elle est absente. C'est celui où le pauvre Lazare, couché sur un fumier à la porte du riche, déclare qu'il ne craint pas, sans doute parce qu'il n'a rien à perdre, et que sa vie est une mort anticipée.
C'était la première page de La Mare au Diable de Georges Sand, lue par le comédien Philippe Dussault. Adélaïde de Clermont-Tonnerre, vous êtes toujours avec nous. Vous publiez, je rappelle, Nos jours heureux chez Grasset, votre nouveau roman. Georges Sand, vous êtes lectrice ?
Oui, je suis lectrice et d'ailleurs je l'admire parce que c'est vrai qu'elle a un talent de sensualité, là encore, d'incarnation qui me plaît beaucoup. Et puis ça m'a toujours interpellée le fait qu'elle ait choisi au fond ce pseudo, ce nom d'homme, parce que si longtemps on a voulu encore une fois mettre un sexe sur l'écriture. Et moi, je me rapproche de cette idée de Virginia Woolf qui dit au fond, le stylo n'a pas de sexe, justement. Et je trouve ça merveilleux qu'aujourd'hui, on n'ait plus besoin de se cacher sous l'identité d'un homme pour être respecté littérairement. Et George Sand a réussi à ouvrir le chemin de cette façon.
D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais dans votre nouveau roman, vous vous mettez dans la tête d'un homme, en fait.
Oui, j'écris. Alors c'est un fantasme personnel, je vais dire. Je me suis toujours posé la question de ce que vous, messieurs, vous avez dans la tête, dans les mains, dans le cœur, ce que vous ressentez. Il y a un mystère et une altérité entre les hommes et les femmes qui est irréconciliable et qui, moi, me fascine. Donc c'est ma manière de vous apprivoiser, on va dire.
Et pendant l'écriture, vous demandez à votre entourage masculin, est-ce que c'est crédible ? Est-ce qu'un homme pourrait penser ça ?
Ah oui, ça m'arrive absolument. Il y en a qui me disent, non mais ça pas du tout. Non mais je n'utiliserai jamais ce mot-là, par exemple. Ça, c'est mon frère qui est très, très sensible à ça, qui a une idée très arrêtée de la virilité. Donc, il me dit qu'il y a des mots qui, non, vraiment, ça ne marche pas.
Not all men, not all men.
Oui, c'est ça, exactement.
Et c'est quoi votre roman culte à vous ?
Moi, j'en ai plusieurs, mais ma grande passion, si je dois en choisir un seul, c'est John Irving, Le Monde selon Garp, que je relis à peu près une fois par an, et dont j'adore la liberté. John Irving, il a une liberté absolue, une puissance d'évocation, un souffle absolument rare et qui me touche profondément. Avec des personnages fantasques, cassés, brisés, reconstruits, atypiques, et je trouve ça précieux.
John Irving, Le Monde selon Garp, on va peut-être le trouver d'ailleurs dans la bibliothèque que nous partons visiter dans un instant. À tout de suite.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre. Nicolas Caro.
La Voix est libre continue, nouvelle page. Vous l'écoutez chez Mathieu Belliard le matin, chez Philippe Vandel à 9h30. Je le croise parfois, moi, dans les couloirs. Et je lui ai demandé s'il accepterait de me faire visiter sa bibliothèque. Il a dit oui. Alors, j'y suis allé. Chez Bertrand Chameroy, puisque c'est lui dont il s'agit. Bonjour Bertrand Chameroy.
Bonjour Nicolas Caro.
Merci de nous recevoir chez vous. On est dans Paris, dans un petit appartement. Où, alors, c'est assez récurrent dans mes visites de bibliothèque. Vous avez beaucoup de livres ici, mais vous m'avez dit le reste, c'est dans des cartons.
Dans mon manoir.
Oui. Chez votre maman, m'avez dit.
Chez ma maman à Nice, qui, je ne vais pas te laisser trop le choix, stocke et conserve tous mes livres d'enfance et d'adolescence.
Et ça vous manque pas? Vous avez pas envie de les avoir avec vous?
Si, j'aimerais bien, mais alors là, j'ai pas trop la place. Mon grand projet du moment, c'est d'avoir faire l'acquisition d'une vraie bibliothèque, parce que là, les livres sont quand même posés quasiment au sol et très bas. Mais j'aime bien, quand je retourne voir ma mère à Nice, ouvrir un carton et repiocher dedans. Ça me fait une petite madeleine.
Par exemple, il y a quoi là-bas?
Il y a tous les Tintins. Qui, je pense, Tintin a été mon premier contact avec, enfin le contact dont je me rappelle avec avec un livre, avec un objet livre. Donc tous les Tintins pour qui je voue toujours aujourd'hui une grande passion. Et il y a un livre qui me tient très à cœur, qui est le premier livre qui m'a procuré une émotion vraiment au sens propre du terme, qui est un livre qu'on nous avait fait lire au collège, qui était Mon bel oranger.
Ah oui. Essayez de me convaincre parce que moi aussi je l'ai lu. On a à peu près le même âge. Je l'ai lu au collège aussi, mais alors je n'ai pas du tout aimé. Peut-être parce que c'était imposé par le collège, mais est-ce que vous pouvez essayer quand même de le...
Alors je m'adresse à tous les jeunes qui nous écoutent, car il y en a. Si on vous impose de lire Mon bel oranger, vous allez sans doute réagir comme moi et Nicolas, c'est-à-dire ne pas avoir envie de le lire. Et je vous souhaite de vivre ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire que la contrainte était quasiment constante jusqu'à une certaine page. Je ne saurais pas dire à quel moment, mais j'ai vraiment senti de l'émotion me gagner et j'ai fondu en larmes pour la première fois de ma vie en lisant des mots. Ah et oui. Je me suis dit, ok, les livres, ça peut être vraiment génial parce que ça provoque ce genre de choses. Et jusqu'ici, pour moi, c'était, je suis quand même quelqu'un de très sensible, c'était que les dessins animés ou les films qui pouvaient provoquer ce genre de sensations, mais j'aurais jamais imaginé que ce soit possible avec des livres.
J'ai pas dit, dans votre salon, il y a un canapé, une télé, un téléphone fixe des années 90.
Oui, car on se côtoie quand même régulièrement dans les couloirs d'Europe 1 et je pense, Nicolas, que vous avez vu qu'il y a ce petit, je ne sais quoi, de désuet en moi.
Ce petit côté années 90.
Voilà, donc le téléphone fixe va avec.
Mais il n'est pas branché, j'imagine.
Il est branché en plus. Et il sonne.
Il fonctionne.
Il sonne. Alors, principalement, ce sont des démarcheurs, mais c'est toujours plaisant.
Donc, on va faire un tour dans la cuisine tout à l'heure, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de livres aussi là-bas, mais... On fait un petit détour avant par le jardin avec ce petit livre que je trouve entre deux romans, Atlas de poche des fleurs du jardin les plus faciles à cultiver, 128 planches coloriées de Paul Hariot. C'est à vous ?
C'est à moi. C'est toujours avec ce petit côté sensible et désuet que j'ai.
C'est très joli. Hein.
Ça ressemble au livre qu'on pouvait avoir. Moi, j'avais ma maîtresse de maternelle avait beaucoup de livres comme ça dans ma classe que je trouvais très jolis. Ils ont imité l'aspect un peu vieillot des pages et c'est une sorte de, alors pas d'herbier, mais voilà, on a une page avec une fleur, avec un croquis de fleurs en couleur et la description, le nom d'origine en latin et l'histoire de cette fleur, de cette herbe, comment s'en occuper, à quoi ça sert, qu'en faisaient les ancêtres. Et alors, ça ne me sert pas à grand-chose puisque je n'ai pas deux jardins à Paris.
Oui, on est à un quatrième étage, là.
Voilà.
Vous avez quelques fleurs qui vont mal sur votre balcon, là, sur le rebord de fenêtre.
J'ai envie de dire qu'elles vont aussi bien que le monde.
C'est une allégorie.
Comme je viens de Nice, j'essaie de trouver de la nature et de l'évasion par tous les moyens. Donc, ça passe par ces petits livres sur les plantes ou par cet olivier qui est en train de mourir malgré moi.
Ah, c'est un olivier ?
À droite, c'est un petit olivier.
Ah oui, ouais. Il est tout petit.
Ouais, il est tout petit, puis il est pas très en forme.
Grand comme 5 olives, quoi.
Mais bon.
Vous jardiniez quand vous étiez à Nice ?
J'aidais très vite mon grand-père.
D'accord.
Mais plus tard, j'aimerais pouvoir jardiner.
C'est un petit rêve, quoi.
Un de mes rêves, c'est une maison de campagne avec un potager. Beaucoup de fleurs, de belles fleurs, mais on en parlera dans une autre émission, et un petit transat avec un bouquin.
Ben voilà, le paradis, quoi.
Voilà, un plaisir simple.
Alors, il y a moins paradisiaque, j'ai vu quelques Houellebecq, là.
Oui.
Notamment son livre, son recueil de poèmes, Configuration du dernier rivage. Il y a aussi quelques romans. Vous aimez la désespérance de Houellebecq ou c'est sa lucidité ou... Est-ce que vous aimez Houellebecq ou alors est-ce qu'ils sont là par hasard
J'aime beaucoup son personnage. qui m'agaçait au début, je dois l'avouer, et j'ai eu une révélation à force de le voir en interview et surtout de le voir en tant que comédien dans L'Enlèvement de Michel Houellebecq, où il est vraiment formidable.
Très, très drôle.
Et oui, il y a quelque chose qui me touche beaucoup chez lui, dans sa façon dont on sent qu'il y a quelque chose au fond de lui qui, je ne sais pas, c'est toujours cette histoire de sensibilité.
Oui, c'est ce
j'arrive
que j'allais
à sentir des choses chez les gens. Plus le temps va, plus je m'en rends compte que je suis attiré vers des personnes qui ont soit une espèce de mélancolie en eux, ou pas de mal-être, mais quelque chose, qu'il se passe quelque chose, ça m'attire. Et les Houellebecq, ils ne sont pas tous là, mais je les ai tous. Et au début, j'étais dégoûté par Michel Houellebecq, parce que là encore, c'était une lecture forcée. À l'IUT de journalisme, on avait des cours d'anthropologie. Et quand on nous a dit on va étudier Michel Houellebecq, j'étais ravi parce que je me suis dit c'est chouette, c'est quelque chose d'un sujet contemporain. Mais sauf qu'on l'étudiait dans les moindres détails pendant des heures et on en perdait le plaisir de la lecture.
Là, il voyait avec cette virgule, il a voulu dire l'horreur du monde.
Ça m'a permis d'apprendre des choses, mais je trouve que parfois l'analyse était trop poussée. Je pense que même Michel Houellebecq lui-même n'aurait pas été forcément d'accord.
Là, j'ai dans les mains, là, je viens de voir un grand album très étrange. Qu'est-ce que c'est? Tout en long comme ça.
Ça, je n'en ai pas la moindre idée.
Alors, Riyad Satouf.
Riyad Satouf.
Qu'est-ce qui vous plaît chez Riyad Satouf?
Alors, tout. Parce que Riyad Satouf, j'ai découvert avec Pascal Brutal.
Ensuite... vous les avez là aussi.
Oui, je les ai.
Vous étiez un lecteur de Flûte glaciale, en fait.
Oui, oui, oui. Ouais. Pour revenir aux émotions, Mon bel oranger, c'est mes premières larmes d'émotions tristes, on va dire. Mais Riyad Satouf, avec Fab Caro, sont les deux personnes qui arrivent, parce que quand on lit ou même quand on regarde la télévision seul, c'est rare de laisser éclater un rire. Mmh. Fab Caro et Riyad Satouf me provoquent ça, c'est que je peux vraiment éclater de rire en lisant leur BD ou leur livre. Et Riyad Satouf, Pascal Brutal, c'est une de mes passions. Les Cahiers d'Esther, je trouve ça très drôle et très mignon. Et L'Arabe du futur, je trouve ça hyper touchant. Et à chaque fois qu'il annonce un nouveau tome, je fonce parce que non, vraiment, je pense que Riyad Satouf pourrait sortir un livre de pages blanches avec des points, je foncerai.
Et alors Fab Caro, c'est Zaï 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 en BD qui parle du couple, de la vie quotidienne, mais il fait des romans aussi, Le Discours qui vient d'être adapté au cinéma, et puis dernièrement il y a eu Broadway aussi qui était très drôle. Vous êtes plutôt roman de Fab Caro, BD, les deux, c'est l'esprit du type?
C'est l'esprit avant tout, mais je suis plus roman, parce que je trouve qu'il a un regard sur la vie, sur le quotidien, sur les tracas, sur les petites absurdités qui tape très juste à chaque fois, et même en l'occurrence dans Broadway ou dans Le Discours, sur des choses que tout le monde a connues, que tout le monde connaît, on pourrait dire ça, on y a tous déjà pensé, cette vanne, mais il le tourne d'une telle façon qui rend quelque chose de banal, extraordinaire, et c'est respect.
C'est un peu ce que vous faites, vous, en fait.
Je ne me comparerai pas à Fab Caro, mais...
C'est un peu votre méthode aussi, de prendre quelque chose d'un peu banal, mais quand vous le dites, vous passez un extrait d'eux, ça prend une autre dimension, quoi. Vous soulignez.
Oui, bon, je
ça devient drôle.
Je prends le compliment.
Votre méthode? Est-ce que conscient ou pas?
Je ne m'en rends pas forcément compte. Parfois, si je m'en rends compte les jours où je n'ai pas d'inspiration, je dis, bon, j'ai rien, je vais prendre ce truc qui est complètement nul ou il n'y a pas grand-chose à en tirer, mais je sais que je vais finir par en faire quelque chose et par le gonfler. Et effectivement, je peux faire 3 minutes sur 2 lignes.
Vous voulez bien nous emmener dans la cuisine, parce que j'ai vu quelques livres et parfois on a des bonnes surprises. Chez Vincent Delerme, on avait trouvé 100 façons de faire l'omelette, un livre des années 70. On avait bien rigolé avec ça.
J'en veux bien déjà une parce que moi je les loupe à chaque fois.
Ah oui, il y avait toute une préface sur l'omelette classique.
Ah oui.
Parce qu'il y a un débat sur qu'est-ce qu'une omelette classique. Mais là, alors il y a plusieurs types de livres, mais il y a beaucoup de gastronomie étrangère. Enfin, en tout cas, il y a un livre en anglais, What to Cook and How to Cook It, de Jen Hornby. Vous cuisinez en anglais?
Non, alors celui-ci, c'est vraiment parce que je trouvais l'objet très beau. La reliure est jolie.
C'est un grand livre, beau livre.
L'intérieur est vraiment pourri,
avec une couverture
mais il est vintage.
Stylisée. Ah oui,
il
oui,
a
oui.
un côté complètement, ah oui, vieille
photo.
On dirait des photos de petits déjeuners d'hôtel des années 80.
Même les couverts, tout c'est vintage.
Tout est vintage.
Les verdures à l'impression.
L'intérieur du livre est vraiment infâme, mais... Mais je sais pas, il me fait rire. Enfin, il me fait rire.
Et vous cuisinez beaucoup ?
Je cuisine principalement, bah, après tout ce qui est simple, oui. J'aime bien cuisiner justement des plats niçois.
Vous savez faire la pissaladière ?
Je fais la pissaladière, je fais ma pâte moi-même, parce que dire je fais de la pissaladière sans faire la pâte soi-même, ça n'est pas...
C'est un mensonge. C'est juste poser des anchois sur une pâte.
Voilà, je fais mes gnocchis de pommes de terre. Mais
ah, carrément.
Ça, c'est... Voilà, par exemple, dans une journée, soit on lit les frères Lehmann, soit on fait des gnocchis, mais on ne peut pas faire les deux dans la même journée parce que c'est très long de faire des gnocchis de pommes de terre. Mais ça m'apaise.
Soupe de tripe, ça, vous n'avez jamais testé ?
Non, alors ça, par exemple, je ne testerai jamais. mais c'est, voilà, ça, parce que j'ai aussi un petit problème, c'est qu'il y a tout un tas de plats dans ces livres que je ne ferai jamais, tout comme dans ma bibliothèque. Il y a tout un tas de livres que je ne lirai jamais.
Mais ce n'est pas grave, ça c'est un livre qui se regarde aussi.
Exactement. Parce que j'adore aller dans les bibliothèques, dans les librairies, pardon.
Et vous achetez beaucoup ? Vous êtes un peu acheteur compulsif dans les librairies ?
J'adore l'ambiance des librairies, j'adore l'odeur du livre. Ça ne me prend pas souvent dans l'année. Deux fois par an, je passe très longtemps dans une librairie. Je regarde tout ce qu'il y a, je repars avec tout un tas de livres. Je ne les lis pas dans l'immédiat parce que... Pendant l'année, j'ai du mal à me concentrer et à trouver des moments où je suis vraiment à penser qu'au bouquin. Et l'été, je me dis c'est le moment où je vais les emmener, mais non, j'en achète d'autres pour l'été. Et donc, j'ai tout un tas de livres à rattraper, mais c'est plutôt chouette.
Et tant mieux.
Ouais. Et tant mieux.
Alors, en revanche, il y a un livre qui est très accessible, qui était tout en haut de la pile, c'est « Les tartes faciles ».
Oui, c'est vraiment le mot « facile » qui m'a décidé.
Qui vous a convaincu. Et ça, vous en faites beaucoup de celui-là ?
Oui, mais le souci, c'est qu'ils ils disent tarte facile. Effectivement, les pâtes sont faciles à faire. C'est tout ce qu'il y a avec qui est un petit peu plus compliqué.
C'est la pâte qui est le plus difficile à faire en général, non ?
Oui, mais moi, j'ai un petit coup de main.
Sur la pâte, grâce à la pissaladière.
Grâce à la pissaladière, j'adore. Mais vous faites de la pâte ?
Non. Moi, j'achète toujours la pâte toute faite. Ça me fait peur. Alors que je cuisine pas mal, mais la pâte, ça me fait peur. Alors la pissaladière, j'ai jamais essayé parce que je me dis j'arriverai jamais à faire cette sorte de pâte à pain bizarre.
C'est très facile à faire.
Expliquez-nous s'il vous plaît.
C'est très facile. Donc là on bascule dans la table des bons vivants.
Ouais. Salut Laurent Mariotte.
C'est très facile à faire la pâte à pissaladière. Vous prenez 250 g de farine, enfin là je vous donne des
à peu près
250 g de farine dans un saladier, vous faites un petit puits, vous mettez une cuillère à soupe d'huile d'olive, de la levure boulangère, de l'eau tiède. C'est très important que vous incorporez petit à petit, vous malaxez avec vos petites mains et jusqu'à former une boule homogène. Vous laissez reposer ça et ensuite vous étalez et vous mettez vos petits oignons que vous avez découpés, fait revenir avec des herbes de Provence et de l'huile d'olive et tout se passe bien.
Ça a l'air facile quand vous le dites. Je suis sûr que si je m'y mets, la pâte va coller, ça va pas être.
Parce qu'il y a un ingrédient que vous avez oublié de prendre en compte.
C'est l'amour.
C'est l'amour.
Ouais. Ça, il y en a plein. Il y en a trop peut-être.
C'est vrai, je suis une boule d'amour.
Merci beaucoup Bertrand, en tout cas pour ce voyage dans votre bibliothèque et dans votre cuisine, et à Nice.
Mais merci à vous Nicolas.
À bientôt, merci beaucoup.
À bientôt.
Retour en studio et merci beaucoup à Bertrand Chamerois. Adélaïde de Clermont-Tonnerre, c'est comment les livres chez vous ? Je suis sûr que vous êtes une bibliophile.
Alors, ils sont rangés, absolument. Ils sont rangés par thème. D'abord, c'est-à-dire que je vais mettre d'un côté la philosophie, de l'autre côté l'histoire, la géographie, la littérature. Et ensuite, dans la littérature et dans ces sous-thèmes, ils sont rangés très simplement par ordre alphabétique.
Ah oui, mais donc c'est super rangé.
C'est assez rangé et en même temps, quelquefois, ça se dérange assez régulièrement parce que j'en reçois, et j'ai beaucoup de chance d'en recevoir beaucoup, mais j'en reçois beaucoup et de temps en temps, ils ont tendance à s'empiler au sol et il faut que je fasse des grandes séances de rangement, effectivement. Mais en même temps, j'ai une mémoire visuelle qui fait que je sais exactement où est un livre et que je l'ai absolument repéré dans ma mémoire.
Est-ce que vous vous débarrassez de certains livres ?
Alors, je suis très heureuse que j'ai une association absolument formidable. Ce qui est dommage, c'est que je n'ai pas le nom en tête, qui vient chercher les livres chez vous, qui les donne dans des hôpitaux, qui les donne dans des bibliothèques, qui les confie pour les enfants. Et c'est absolument formidable. Et moi, je trouve que des livres, ça doit circuler. J'aime beaucoup d'ailleurs ce mouvement assez simple de l'idée qu'on puisse laisser un livre dans l'espace public qui sera repris. Et je pense qu'il faut donner les livres. Oui.
Et on ne prête pas un livre, parce que de toute façon, on ne le retrouvera jamais.
Non, soit on le donne, voilà. Soit on le garde.
Restez avec nous, Adélaïde. On part justement acheter d'autres livres chez les libraires dans un instant.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.
Retour de la vengeance de La Voix est libre et il est l'heure des libraires. Et aujourd'hui avec Marie-Ève Charbonnier de la librairie Parole à Saint-Mandé. Bonjour Marie-Ève.
Bonjour Nicolas.
Quels sont les deux ou même trois livres que vous nous conseillez aujourd'hui?
Alors, premier livre, c'est La face nord du cœur de Dolores de Redondo, publié à la Série Noire chez Gallimard.
Dolores Redondo, parce qu'en fait, tout à l'heure, avant d'allumer les micros, on a parlé de Léonore de Redondo. Et en fait, on n'arrive plus à dire Dolores Redondo.
C'est ça, Dolores Redondo. Voilà,
Léonore de Redondo qui est une autre auteure magnifique.
Mais ils sont presque homonymes, c'est un peu dur. Donc, La face nord du cœur, publié à la Série Noire chez Gallimard. On va suivre la jeune Amaya Salazar, qui est une très très bonne policière en fait, qui sévit au Pays Basque et qui va être envoyée en Floride pour suivre les cours de profilage. Et en fait, elle est tellement bonne que très très rapidement, on va la mettre sur le feu tout de suite parce qu'il y a une série de meurtres dont on soupçonne que ce sont des meurtres en série. Le meurtrier sévit à chaque fois qu'il y a une catastrophe naturelle et en fait, il a une façon de faire qui est tout le temps similaire. Il décime une famille entière en profitant du déchaînement des éléments. Voilà, donc on va suivre l'enquête de cette jeune femme qui va aider le flic local, enfin la sommité locale plutôt. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'on est en plein ouragan Katharina. C'est-à-dire que le prochain crime, celui d'après, c'est celui qui va arriver. On soupçonne, on pense qu'il va arriver pendant l'ouragan. Et le livre est extrêmement bien documenté. Donc on suit vraiment toute la progression de l'ouragan. Et tout ça se passe sur fond de vaudou, puisque ça se passe dans cet élément-là. Et on fait aussi beaucoup de retours en arrière avec la vie de la jeune enquêtrice qui a subi plein de traumatismes dans sa jeunesse au Pays Basque. Et tout ça, il y a des liens insoupçonnés entre le vaudou et la magie qu'on peut avoir en Espagne. Ça se mélange. Le récit mélange les temps et c'est vraiment, vous allez le prendre et ne plus le quitter.
Dolores Redondo, La face nord du cœur, avec une très jolie couverture à la Série Noire. J'en profite pour saluer, si elle nous écoute, Anne-Sophie Rouvelou, qui est fan absolue de cet auteur, qui est partie aux États-Unis maintenant. On la salue, peut-être elle nous écoute par Internet, on ne sait jamais. Quel est votre deuxième roman?
Alors, deuxième coup de cœur, ça n'a strictement rien à voir. Vous aurez eu froid et peur avec le premier, vous allez rigoler avec le deuxième. Chronique d'une station-service d'Alexandre Labruf.
J'adore.
Qui est paru aux éditions Verticales et qui vient d'être publié chez Folio. Donc là, vraiment, un genre totalement différent, un ovni, c'est un livre incassable. Court bouquin, et effectivement chronique, parce qu'il y a une série de petits aphorismes. En fait, ça peut faire une ligne à 2-3 pages.
Oui, c'est pas vraiment un roman,
c'est
des instantanés.
C'est pas un roman, c'est pas un récit, on ne sait pas s'il l'a vraiment vécu ou pas. Enfin, tout ça reste un peu mystérieux. Ce qui est très très chouette, et puis surtout il fait des références à des tas de choses. Enfin, je pense que les gens qui sont très très cultivés, ils doivent voir des tas de trucs que j'ai pas vus, mais à mon avis on peut revoir des tas de films de cinéma. On pense forcément à Ciao Pantin, parce que ça se passe dans une station-service. On pense à Raymond Queneau, enfin voilà.
Oui, c'est ça, c'est le type qui a son guichet, et puis il regarde les gens arriver.
Exactement.
C'est la nuit,
alors,
les gens un peu bizarres, il invente leur vie, ou alors il parle de lui.
C'est ça, il passe un peu le temps en regardant tout ce qui lui tombe sous la main, et notamment des vieux films. Il joue aux dames, il tombe amoureux, il voit passer des gens qui lui laissent des livres en dépôt dont il se dit que peut-être il y a un trafic quelconque dessous et voilà. Et tout ça est extrêmement marrant en fait parce qu'il joue beaucoup avec les mots, l'écriture est très, très vive et très incisive. On se demande un peu comment ça va se terminer, mais il y a une action, il y a vraiment quelque chose et c'est quand même un roman parce qu'il y a du mouvement. Il y a un début, il y a une fin et voilà. Et c'est vraiment le livre d'été idéal parce que on rigole et ça fait du bien en ce moment de rigoler.
Et alors je l'ai rencontré Alexandre Labruf, je l'avais interviewé quand il a sorti en grand format. Il est un peu fou pour le meilleur et il avait aussi publié dernièrement le journal de Wuhan parce qu'il était attaché d'ambassade à Wuhan quand la crise du Covid a commencé. Il est parti juste avant le confinement de Wuhan qui était donc terrible. Il racontait ça aussi dans un roman qui est apparu en septembre dernier complètement halluciné.
Et on attend son prochain livre qui sort à la rentrée.
Et voilà. Merci beaucoup Marie-Ève Charbonnier. Donc on redit Chronique d'une station-service Alexandre Labruf et Dolores Redondo,
La face nord du cœur.
À la Série Noire chez Gallimard. Merci beaucoup Marie-Ève Charbonnier, librairie Parole à Saint-Mandé. À bientôt.
Au revoir Nicolas.
Europe 1.
C'était la dernière page de cette émission. Merci à Agnès Vaudin pour la préparation et merci à Boris Paczynski, l'homme aux doigts de fée avec ses petits ciseaux. À la semaine prochaine. Émission spéciale chez François Bunel, visite de ses bibliothèques. Il y en a moins 5 ou 6 avec des échelles et tout, on va bien s'amuser.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.